vue d'ensemble de l'actualité.
Est-ce que l'objectif ultime, c'est pas de sortir l'auto du centre-ville, point final?
Pas du tout, parce qu'il va toujours avoir des gens qui vont avoir besoin de se déplacer en auto, puis pour des raisons légitimes. Là. Je pense à des familles avec des jeunes enfants, je pense à des gens qui sont à mobilité réduite. Toutefois, moi, je suis pas d'accord avec le fait que le plan local de déplacement qu'on met en place va empirer la circulation. Je pense qu'au contraire, si on vient offrir des alternatives aux citoyens, on va même venir désengorger.
Alors, ça se passait dans l'émission de Paul Arcand ce matin. C'est Sophie Moserolle que vous entendiez. Donc, elle est conseillère et elle défendait donc le plan de déplacement 2020-2030 là, qui a été déposé pour l'arrondissement Ville-Marie, donc pour le centre-ville, dont Valérie Plante est la mairesse. Hein. Valérie Plante est mairesse pour la ville, mais elle est mairesse aussi de l'arrondissement. Et ce plan-là vise à réduire l'auto-solo. Et là, je me suis dit, ah ouais, réduire l'auto-solo. C'est sûr que l'objectif, éventuellement, là, c'est que il y en ait presque plus, ou sinon plus du tout, de voitures solo, à tout le moins, au centre-ville. Et là, je me suis dit, bon, le grand penseur là, de ce plan-là, c'est sûr que c'est Luc Ferrandez. Il y a quelque chose à voir là-dedans, lui-là, parce qu'il a comme parti ça, et là, c'est en train de s'étendre au reste de la ville. Luc Ferrandez, ancien maire du Plateau, et bien entendu, membre de la commission Taillefer-Ferrandez. Comment ça va?
Ça va bien, toi, M. Drainville?
Ça va bien. Je pense qu'on va se tutoyer. Là,
oui, j'allais dire Bernard. J'ai une félicitation. Bonjour, Bernard.
Bon, alors, Luc, est-ce que c'est ça le plan de match? Là? Honnêtement, c'est ça le plan de match. C'est qu'éventuellement, on n'ait plus de voitures dans nos centres-villes, hein, c'est ça?
Écoute, en toute honnêteté, il ne restera pas beaucoup de place pour les voitures au centre-ville une fois que les plans vont être mis en œuvre, parce que le plan, il dit plusieurs choses intelligentes quand même. Hein. Il faut lui donner, je pense pas qu'il y a une volonté de Mme Moserolle ou Mme Plante de cacher la vérité, de l'embellir. Il présente les choses dans un certain ordre. Ils disent, d'abord, il faut sécuriser les intersections et les trottoirs. Pour les piétons, il y a énormément de piétons au centre-ville. Première chose. Donc, ce que tu vas faire, c'est élargir des trottoirs. Tu vas mettre des intersections plus sécuritaires avec des saillies de trottoirs au coin des rues qui vont limiter la possibilité de tourner à droite. Ensuite de ça, ils veulent avoir des corridors cyclables plus nombreux. Donc là, t'enlèves une voie de circulation pour faire des corridors cyclables à certains endroits. Ensuite de ça, ils veulent avoir un transport en commun efficace. Donc, ça prend des voies réservées. Ensuite de ça, ils veulent limiter le transit sur les parcours malins, donc tous les endroits où les gens passent à travers les rues résidentielles pour pouvoir éviter les artères qui sont bloquées. Donc là, tu renvoies des voitures sur les artères, puis ils veulent limiter la vitesse de circulation. Alors une fois que tu as fait tout ça, il ne reste plus beaucoup de place pour la voiture solo. On s'entend.
C'est quoi l'objectif, Luc? Est-ce que c'est un objectif environnemental? Est-ce que ça participe d'une vision de dire il faut diminuer les gaz à effet de serre? Est-ce que c'est ça la première motivation?
Ben, avant même, non. Parce que
non,
avant
c'est pas
même,
ça. C'est quoi non, la première motivation?
La première motivation, c'est la vision zéro, c'est le nombre d'accidents. Le nombre d'accidents des voitures entre elles a diminué avec le temps, parce que la vitesse de circulation a diminué compte tenu de la congestion notamment. Puis aussi la qualité des véhicules fait qu'il y a de moins en moins de morts de chauffeurs de voitures et de camions, mais elle a augmenté chez les piétons et les cyclistes parce qu'il y a de plus en plus de monde, donc de plus en plus d'interactions entre vélo, auto et auto-piéton. Et ça, ben, ce sont des chiffres qui sont difficiles à avaler. Là, tu le vois bien que semaine après semaine, on a des nouvelles sur des personnes qui se font renverser, souvent des personnes âgées là, qui n'ont pas eu le temps de traverser la rue, souvent à des moments comme la nuit, le soir ou alors dans des mauvaises conditions climatiques, mais il y en a de plus en plus.
Mais c'est quoi l'équation économique qui est derrière ça? Parce que si, mettons, là, tu crées un espace urbain à l'intérieur duquel les voitures ne circulent plus, comment tu assures la viabilité économique de tes commerces à ce moment-là? Est-ce que ta viabilité, elle vient seulement des consommateurs locaux qui sont installés autour et qui peuvent marcher jusqu'à ton commerce ou qui peuvent rouler à bicyclette jusqu'à ton commerce? C'est-tu ça? Parce que honnêtement, oui. Luc, je suis pas un expert, contrairement à toi. Je n'ai pas dirigé
non, moi non plus,
de... Non, ben quand même, tu l'es plus que moi. Mais j'essaie de... Il me semble que tu te coupes d'une grosse... affluence quand tu décides comme ça de couper l'oxygène aux automobilistes, non?
Je sais que c'est l'impression générale, puis sans doute que dans certaines rues, c'est le cas. Comme par exemple, la rue Saint-Denis qui a souvent été donnée comme exemple négatif parce que les gens disent « moi, je n'y vais plus en voiture, il n'y a pas de stationnement » puis on disait qu'il n'y a pas de stationnement, mais il n'y en a pas plus, il y a pas plus pour moins qu'avant, là, mais il y a aussi le fait que pour t'y rendre, tu vas sans doute être tombé une journée sur deux sur un pont qui est fermé parce qu'il est en réparation, beaucoup de cônes oranges. Alors, le centre-ville, quand on a fait les plans pour la rue Sainte-Catherine, on se rendait compte que les gens qui venaient au centre-ville de la région montréalaise, c'était très faible. Il y a les travailleurs du midi qui, eux, viennent en grand nombre dans les commerces. Mais après ça, quand tu regardais là, l'est de Montréal, Laval, Terrebonne ou de l'autre côté de l'ouest, c'était des chiffres comme ça représentait quelque chose comme 14 à 19 de l'achalandage du centre-ville. C'était pas énorme. L'achalandage du centre-ville, il est garanti par les touristes d'une part, puis les gens qui viennent en transport en commun. À 70 % puis même des fois 80 % c'est des gens qui viennent en transport en commun. Il y a seulement à peu près 20 % là, des gens qui viennent en voiture de la région de Montréal.
OK, mais est-ce qu'il te reste une activité économique avec une ville comme celle-là? C'est quoi ton activité économique? J'essaie de voir.
Il y a des commerces qui tombent, il y a des commerces qui montent. Les commerces qui tombent, c'est tous les commerces de destination où les gens doivent, mettons, venir de loin pour que le commerce survive. Par exemple, un magasin d'appareils photographiques, c'est pas tout le monde qui va s'acheter un appareil photographique en passant devant. Tu sais, où il vend des télescopes, il vend des zooms. Il faut que tu viennes de loin. Alors, on peut penser que cette personne-là va venir en voiture. Ce commerce-là va tomber. Un restaurant qui fait des événements, un restaurant de 170 places qui fait des événements les vendredis, samedi soir, on peut penser qu'il va tomber. Mais il y a des commerces qui vont monter, comme par exemple tous ceux qui dépendent de la qualité de vie sur la rue, les terrasses, les bars, certains restaurants avec des grandes terrasses aussi vont monter. Le commerce de proximité ne va pas bouger tant que ça parce que un peu les gens vont venir faire des plus petits achats dans les fruiteries, les boulangeries, les charcuteries, etc., boucheries, mais pour faire la grosse épicerie, ils n'iront pas là. Fait que là, il y a des variations. Mais en règle générale, il y a des hauts puis il y a des bas. Parce qu'on l'a vu, regarde la rue Sainte-Catherine à l'est, elle est bas. Elle est fermée tout l'été. Puis, tu sais, avec les boules roses, là. Maintenant, c'est pas les boules roses, c'est des boules de toutes les couleurs. Elle est fermée tout l'été. On a vu les commerces qui ont monté, puis on a vu les commerces qui sont tombés.
Mais y en a-tu plus qui montent qu'il y en a qui descendent? Au net, est-ce que c'est positif ou négatif?
Au net, c'est pour l'instant, c'est négatif parce que en même temps, il y a une révolution du commerce, puis il y a les achats en ligne qui se font. Fait qu'au net, c'est négatif. Toi, tu es assez vieux, puis nous sommes assez vieux pour se rappeler que le centre-ville, c'était l'attraction de Montréal. 40 % des Montréalais faisaient leur achat sur la rue Sainte-Catherine dans les années 60-70. Là. C'était le centre-ville. Tu allais là, pas juste pour faire tes achats, tu allais là pour aller au cinéma, pour aller dans le nightlife, pour aller au restaurant. Il y avait le restaurant Le Paris, il y en avait d'autres. Tu sais, tous les Montréalais se disaient qu'il faut que j'aille au moins une fois par année au centre-ville, ne serait-ce qu'à Noël, pour voir les illuminations de Noël, etc. Mais tout ça a changé avec le temps. Les centres d'achat, les achats en ligne, etc. Je pense pas qu'on va pouvoir réinventer ça.
Mais la vision ultime, là, Luc, là, c'est d'avoir des centres-villes sans voiture. On s'entend là-dessus. Là. Je veux dire, si on se parle franchement, là, moi, quand j'entends dire là, que, par exemple, dans le plan qui a été déposé, là, l'idée, c'est que il n'y ait plus que deux voies sur Iberville et Frontenac parce qu'on va élargir les trottoirs. Dans 10 ans, le plan, ça va être une seule voie à sens unique, puis dans 20 ans, ça va être plus de voies du tout.
Non, parce que, regarde, oui et non. Okay? Oui, soyons honnêtes, on s'en va pas vers une circulation ad lib des voitures individuelles au centre-ville d'ici 20 ans, ça va diminuer. D'abord parce que toutes ces mesures-là vont être mises en œuvre, aussi parce que la voiture, en règle générale, va être contrainte là, dans ses déplacements à cause des gaz à effet de serre, puis parce que les transports en commun vont s'être beaucoup améliorés. Tout ça, c'est vrai. Mais les adresses et les stationnements, en particulier les stationnements au centre-ville, vont toujours exiger d'avoir un accès vers leur stationnement. Le gros stationnement de 600 places, je pense que c'est plus que 600 d'ailleurs, du complexe des Jardins, tu peux pas empêcher, tu créerais un tort économique gigantesque au complexe des Jardins si tu ne permettais pas l'accès. D'ailleurs, je pense qu'ils ont un droit notarié à l'accès à leur stationnement. Alors, je ne sais pas si les gens connaissent ce coin-là, là, mais quand tu arrives sur René Lévesque, maintenant, tu peux aller au stationnement, mais c'est la seule chose que tu peux faire. Tu vas juste au stationnement, puis t'en ressors, puis tu reprends René Lévesque, mais tu peux pas aller vers Sainte-Catherine ou vers Jeanne-Mance, c'est tout bloqué.
Donc, on va laisser l'accès aux voitures pour permettre, par exemple, aux employés qui arrivent de Laval ou de la Rive-Nord ou de la Rive-Sud de venir travailler au centre-ville, mais essentiellement, ça va être juste pour ça, puis de plus en plus, on va leur dire, prenez le métro à Laval, à la station Montmorency, ou prenez le REM pour venir travailler, parce que l'accès par l'auto va être, dans le fond, de plus en plus compliqué. Là.
Ça devrait ressembler à ça. Puis il va y avoir aussi d'autres solutions intermédiaires, comme par exemple, quelqu'un qui a 3 clients à rencontrer au centre-ville. Je pense que même maintenant, là, cette personne-là, sans doute qu'elle se gare quelque part à l'ouest. Mettons qu'elle arrive de l'ouest, elle se gare à l'ouest de Guy. Puis là, après ça, elle va faire ses 3 déplacements, soit à pied, soit en taxi, soit en bixi. Mais ça me surprendrait qu'elle prenne sa voiture entre chacun des 3. T'sais, ça a déjà existé, ça. Mais je pense que c'est en voie de disparition.
Là, Luc, bouge pas. Il y a Michel qui nous appelle pour nous parler des saillies, me dit-on. Bonjour, Michel.
Bonjour.
Parlez-moi des saillies.
Ça, là, c'est l'enfer pour un déneigeur. T'arrives là avec ton camion, là, t'es pas capable d'aller chercher la neige au coin de la rue parce que ils appellent ça des accroche-cœurs. Là. L'eau s'accumule là parce qu'il y a un puits d'or, puis les gens tombent tout le temps.
Le saillie, là, juste pour qu'on soit clair, là, c'est sur le coin de la rue. Quand le trottoir, dans le fond, descend pour permettre, mettons, à quelqu'un qui est en fauteuil.
Non, c'est un élargissement de trottoir qui est généralement fleuri.
Ah oui, 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 OK.
Qui est juste au coin.
D'accord.
Mais ça, il pense jamais aux déneigeurs. Ça, si le saillie, il y aurait un plus beau rayon que tu es capable d'aller chercher la neige avec ta pelle, là, tu n'auras pas de misère. Mais là, les ingénieurs font des petits rayons. La neige s'accumule là. La pluie tombe tout dedans, puis ça gèle, puis ça fait de la glace, puis les gens tombent là quand ils viennent pour traverser.
C'est quoi l'objectif d'un saillie, Luc Ferrandez? Restez, Michel, bougez pas. C'est quoi l'objectif?
Alors, oui, la saillie de trottoir, elle a 2 objectifs. Elle a l'objectif de rétrécir la traverse de la rue à l'intersection. Donc, la partie que tu as à traverser est moins longue. Et puis, elle a à donner de la visibilité aux marcheurs, le lien entre l'automobiliste et le marcheur, parce que s'il y a des voitures garées jusqu'au coin, tu ne peux pas voir le marcheur, sauf à la dernière minute. Alors, avec ça, en théorie, tu vois mieux le marcheur.
Ah oui, il s'avance un peu plus long, un peu plus loin dans la rue, dans le fond. OK, je comprends. Oui, bien, Michel,
alors,
vous...
Alors oui, déneigement, il n'y a pas tort que c'est encore amélioré. C'est un concept qui est encore amélioré. Puis... je dois t'avouer que, bon, moi, Plateau Mont-Royal et Rosemont, on a fait comme un record de saillie. On faisait des compétitions de saillie quasiment. Rosemont dit tout le temps qu'ils ont gagné, mais bon. toujours est-il qu'on en faisait beaucoup. Puis, on s'est fait dire, ben pour déneiger, c'est pas facile. Puis nous autres, on disait, ouais, mais si pour le piéton, il y a un avantage, il va falloir que le déneigeur s'adapte. Alors maintenant, j'entends de Michel que peut-être faudrait améliorer le plan, mais l'objectif de protéger le piéton, il reste.
Oui, j'ai bien compris. Luc Ferrandez, ça a été un plaisir. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, cette vision-là, visiblement, c'est celle vers laquelle on s'en va. Alors là, il va falloir trouver une façon de la faire le plus intelligemment possible, sans trop écœurer le monde. Là. Honnêtement, Luc, tu as déjà entendu ce discours-là. Là,
oui, oui, oui.
Hein, il faut comme composer avec les intérêts de tout le monde là, et les besoins de tout le monde. Là.
Bon courage à nous tous.
Absolument. Merci, Luc Ferrandez, qu'on peut entendre bien évidemment dans l'émission de Paul avec Alexandre dans cette commission. Et il est également chroniqueur dans l'émission de Patrick Lagacé, donc Le Québec maintenant. On s'arrête au retour, on s'en va à Paris pour parler de la situation des policiers là-bas. C'est franchement, là, c'est assez dramatique.